franceinter.fr.
Éric Burg qui sera de retour avec nous juste après la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par une menace.
Une menace, une idée, mais surtout une tendance. C'est le dossier d'ouverture du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Vacances et si vous partiez sans vos enfants. Une menace donc parce qu'il ne reste plus aux plus petites, donc une semaine d'école, que vous êtes épuisés pour les tenir. Quoi de mieux que de leur dire qu'ils seront beaucoup mieux au centre ou chez leurs grands-parents. Alors, plus sérieusement, Coralie Garando dans Le Parisien nous raconte comment les catalogues de voyagistes se sont remplis depuis quelques années de séjours en hôtel ou en club barré de la mention « adulte seulement ». Un concept touristique qui s'inspire de l'Europe du Nord où la culture protestante privilégie l'efficacité à la culpabilité, paraît-il, et qui commence donc à faire des émules. Chez nous, donc, même si, paraît-il, la France reste marquée par sa culture latine où séparer de ses enfants et penser à soi est encore mal vu. Le Parisien nous gratifie d'un conseil et d'une mise en garde pour ses vacances réservées aux adultes. Alors d'abord, une coach en relations humaines nous prévient, on ne profitera de ces moments en solo que si on part sans culpabiliser et si notre enfant va bien, donc on s'en assure avant de partir. La mise en garde maintenant, ne croyez pas en partant seul renouer avec les clubs olé olé des années 70 associés à la comédie Les Bronzés. Le terme « adults only » sonne un peu comme un film du samedi soir sur Canal+, reconnaît le président du syndicat des tours opérateurs, mais ce ne sont pas des lieux libertins, ce sont juste des endroits où les adultes peuvent faire du bruit entre eux. Et ben voilà, c'est déjà ça.
Bon, on poursuit plus sérieusement, quoique avec la réunion du jour.
Le congrès à Versailles, réuni par Emmanuel Macron, CAC à la une de l'opinion, s'amuse de la sortie imminente de « Moi, moche et méchant 3 », en grimant le président en grou, accompagné de son célèbre acolyte le docteur Nefario, et d'une armée de mignons, tous aux couleurs de La République en marche. Comme ça, on sait qui commande, affirme Martial Groux Macron. Libération personnalise le mythe de Jupiter, dont on nous rebat les oreilles depuis quelques semaines en mettant un Manupiter à Versailles, à sa une. Premier acte, affirme le quotidien, d'une présidence sans partage. Dans son édito, Laurent Geoffrin explique que Macron est bien Jupiter. Hiératique et nimbé de nuages, le président divin s'exprime par le truchement d'oracles lapidaires et d'apparitions merveilleuses. Ainsi renoue-t-il avec une vieille figure française, nous dit-il, incarnée, on l'a dit, par Bonaparte, Thiers ou De Gaulle, ou encore, et là Geoffrin va plus loin, par le général Boulanger, jeune ambitieux qui avait rallié droite et gauche sans faire grand-chose, mais en cultivant son image. Louis XIV, donc Bonaparte, Jupiter et maintenant Boulanger. Bon, André Chassaigne, président du groupe communiste à l'Assemblée, retient la crainte d'une dérive bonapartiste du pouvoir pour justifier le boycott du Congrès par un certain nombre de députés. Il le dit dans L'Humanité, L'Humanité qui parle de « discours du trône ». Il faut lire Le Figaro pour trouver en fait un commentaire un petit peu plus amène. Guillaume Tabar, dans son édito, estime que le quinquennat commence vraiment ce jour, à 15h. Car ce qui a frappé, dit-il pour l'instant, ce sont les images, l'omniprésence plus que l'omniprésidence. Cela plaît, mais commence à susciter quelques commentaires agacés. Avec ce discours au Congrès, le poids des mots va remplacer le choc des photos. On attend les mots.
Et puis on s'arrête un instant sur les relations entre le président Emmanuel Macron et la presse.
Une petite phrase relayée par Le Monde vendredi justifie ainsi le souhait d'Emmanuel Macron de rompre avec une tradition instaurée par Valéry Giscard d'Estaing, l'interview télé du 14 juillet. La pensée complexe du président se prête mal au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Alors le service de presse de l'Élysée a eu beau ramer derrière pour expliquer que cette phrase avait été sortie de son contexte et utilisée de façon négative. Le mal était fait, enfin surtout parmi les journalistes en tout cas, qui se sont largement offusqués d'une telle arrogance et de ce refus de se prêter à un exercice qui participe du questionnement démocratique. Dans sa chronique de Libération ce matin, Daniel Schneiderman dit avec drôlerie et pertinence ce qu'on peut aussi en penser. Ce n'est pas qu'on pleure ici la fin de l'interview du 14 juillet, cette étrange interview tricolore. On ne la pleurera pas, cette interview confite de respect républicain, où au fil des décennies, on a plutôt compté les questions non posées que les questions posées. Mais au-delà, poursuit-il, exclure les questionneurs et les reporteurs d'images indésirables a-t-il un autre but que de permettre à la souriante propagande présidentielle de se déployer sans concurrence ? Reconnaissons de manière simpliste que la stratégie Jupiter, image partout, info nulle part, manque un peu de complexité.
Après-demain aura lieu aux Invalides à Paris la cérémonie en hommage à Simone Veil. La Croix, ce matin, s'engage.
Oui, un bel et courageux édito d'Isabelle de Golemin, à la une de La Croix. Isabelle de Golemin qui entend répondre, écrit-elle, aux réactions violentes d'une certaine blogosphère catholique qui a pris pour cible Simone Veil, auteur de la loi sur l'IVG. L'avortement, toujours officiellement condamné par l'Église. La journaliste redonne au combat de Simone Veil toute sa justesse, toute sa mesure. Elle rappelle d'abord les mots de l'ancienne ministre. « Personne n'a jamais contesté que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame », avait-elle dit. Simplement, écrit-elle, Simone Veil a choisi de défendre toute sa vie une certaine idée de l'action publique. Comme femme, elle ne pouvait ignorer la détresse de celle qui n'avait d'autre choix que de se faire avorter dans la clandestinité. Comme ministre, elle assumait courageusement une forme d'obligation de l'État face à un problème de santé publique. Cette haute conception du sens de l'action politique, au-delà des convictions éthiques personnelles, marque tous ses combats. Simone Veil mérite l'hommage de la nation, de toute la nation, insiste-t-elle.
On termine par un monument national.
Ouais, pas Jupiter, pas Bonaparte, juste...
Il n'est pas français, Jupiter.
GG. Ouais, il est quand même un petit peu national. Gérard Depardieu, donc, qui fait la une du mensuel 75, le mensuel des curieux de Paris. Mais Depardieu est-il encore à Paris ? Philippe Chalère raconte avec drôlerie son enquête passée à traquer l'acteur dans son fief du 6e arrondissement. Ses amis le disent une fois à Marseille, une autre à Dubaï. Ah, dommage, il était là le week-end dernier, encore raté. Alors il sonne chez lui, pas de réponse. Quand parfois il répond à d'autres, « Y'a personne !» Le journaliste assure que l'acteur est en train de se délester de tous ses biens parisiens de la rue du Cherche-Midi. Sa poissonnerie déjà vendue, son ancienne épicerie fine japonaise est vide et même son hôtel particulier est à céder. Depuis 2012 en fait, mais à 50 millions d'euros, il n'a toujours pas trouvé preneur. Alors Depardieu, toujours aigri par la maladroite remarque de Jean-Marc Ayrault qui avait qualifié l'annonce de son exil fiscal d'assez minable, s'apprêterait-il à tout bazarder et quitter Paris pour de bon ? Mathieu Sapin, qui a écrit et dessiné une formidable BD consacrée à Depardieu, relativise. Non, il déteste juste l'immobilisme. C'est un aventurier capable de tout lâcher du jour au lendemain. Il pourrait être chercheur d'or. Gérard Depardieu continue de parcourir Paris à scooter avec son fils derrière lui. À la fraîche, comme on disait dans Les Valseuses, 7h du mat, pour lui faire découvrir les plaisirs secrets de la capitale. Gérard Depardieu rêve d'être un courant d'air, dit joliment de lui Mathieu Sapin. Un courant d'air parisien à humer donc dans 75.
On n'est pas bien là, Hélène Jouan. Merci beaucoup, c'était la revue de presse. Dans un instant, le retour me fait des gros yeux de l'autre côté de la vitre. Le retour de notre invité Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. On attend vos questions, 01 45 24 7000.